La première,
9h-10h,
l'histoire continue,
Bertrand N, Hélène Maquet.
Trouver où elle habite, trouver où tous ces gens habitent, qu'est-ce qu'on va faire d'elle, est-ce qu'on peut hacker sa boîte mail.
To me, Gamergate will always be glorified revenge porn by my angry aunt.
Des personnes qui créent des faux comptes et utilisent le hashtag pour créer un mouvement de foule, créer un mouvement de masse.
Il y a des événements historiques dont personne ne parle. Des séquences qui vont changer la manière dont le monde tourne, mais qui n'apparaissent jamais vraiment comme telles. C'est particulièrement vrai pour tout ce qui se passe en ligne. C'est comme si ce qui existait sur Internet ne faisait pas partie de la vraie vie. Le Gamergate est une excellente illustration de ce phénomène. C'est l'histoire d'une horde de joueurs de jeux vidéo en colère qui va se transformer en meute de militants d'extrême droite. Le Gamergate est une des premières grandes campagnes de cyberharcèlement et c'est un modèle qui va être reproduit plus tard, notamment dans des campagnes électorales. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue. On descend donc dans les bas-fonds d'Internet aujourd'hui pour vous raconter l'histoire de Zoe Quinn, une développeuse de jeux vidéo qui en 2014 a été une des toutes premières grandes victimes de cyberharcèlement. Son histoire ne vous dit sans doute rien, pourtant elle marque le début d'un phénomène inquiétant. Le fait que la colère de personnes qui se trouvent derrière leur ordinateur puisse être transformée notamment à des fins politiques pour nuire à la société ou à la cohésion au sein de la société. Pour en parler, nous recevons Florence Hénaud.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes aussi la réalisatrice avec Myriam Leroy d'un documentaire « Salpute » qui dissèque ce phénomène de cyberharcèlement dont les femmes sont victimes, dont des femmes sont victimes. Pour vous, pourquoi est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui de raconter l'histoire du Gamergate ?
Parce que peut-être qu'enfin en 2023, c'est le bon moment pour avoir une lecture politique des faits, avoir aussi une lecture sous le prisme du genre. Et ça, c'était un narratif qui était très difficile à imposer au moment du Gamergate.
Alors on va vous expliquer précisément comment ça s'est passé il y a une dizaine d'années, ce Gamergate, dans cette émission. Nous entendrons aussi Cécile Simons, elle est chercheuse à l'Institute for Strategic Dialogue à Londres. Ses recherches portent sur l'extrême droite et le terrorisme, la désinformation et la violence en ligne. Mais pour l'heure, on se replonge dans cette histoire qui démarre aux États-Unis en 2014, une histoire pour laquelle il y a peu d'archives sonores, beaucoup de choses ont disparu en ligne. Heureusement, Zoe Quinn, la victime de cette vague de cyberharcèlement, a écrit un livre qui s'appelle Crash Override pour raconter son histoire. Vous entendrez dans ce récit des passages de ce livre.
La plupart des histoires d'amour se terminent par une rupture. Parfois, cette rupture est tellement dingue que ça devient une histoire horrible qu'on raconte à ses amis, sa famille, son thérapeute. Moi, j'ai vu l'histoire de ma rupture racontée et re-racontée par tout le monde. Par les scénaristes de la série New York Unité Spéciale, par le chef de la stratégie du président Trump. Elle a donné naissance à des blagues sur Internet, elle a un personnage de dessin animé. Ma rupture a requis l'intervention des Nations Unies.
Voilà les premiers mots de la biographie qu'a écrit Zoe Quinn. Pour raconter l'histoire inouï qui lui est tombé dessus comme un torrent de boue. Cette histoire affreuse qui aurait pu lui coûter la vie et qui a fait d'elle un nouvel être humain. Pour comprendre comment une simple rupture amoureuse a pu incendier Internet, il faut revenir au tout début et comprendre qui est Zoe Quinn et comment est née chez elle une passion sans fond pour les paysages de pixels et les êtres magiques qui vivent des aventures héroïques derrière un écran. Zoe Quinn est la fille d'un colosse au bras tatoué réparateur de Harley Davidson et d'une mère dont elle dit simplement qu'elle avait des problèmes de couple. La famille vit dans un village paumé des Adirondack Mountains, juste sous la frontière canadienne. Là-bas, même si le regard peut porter loin sur les pentes douces des collines, l'horizon est bouché. Esprit fermé, conformisme, tout l'inverse des espoirs et des attentes de l'adolescente, weirdo de la première heure, geek solitaire qui attend mieux de l'avenir. Il n'y a que les jeux vidéo et les forums en ligne pour l'aider à échapper à sa dépression et à ses troubles alimentaires. sur Internet, bien plus que sur les pentes douces des Adirondack Mountains, Zoe Quinn a trouvé sa maison. Alors elle grandit en ligne. À 27 ans, la jeune femme est devenue développeuse de jeux vidéo. Une des rares photos de l'époque qu'il reste en ligne montre une jeune femme aux cheveux blancs décolorés. Une frange traverse son front, des lunettes à monture noire glissent sur son nez et reflètent son écran d'ordinateur. Zoe Quinn fait une grimace rigolote pendant qu'un chat s'arrondit sur ses épaules et tire une tête de fauve. Nous sommes en 2013. Son premier jeu vidéo vient de sortir, Depression Quest. Un jeu dans lequel le héros ou l'héroïne est continuellement bloqué par sa maladie dans tout ce qu'il ou elle entreprend. Zoe Quinn raconte sur YouTube à quel point elle se sent encore peu légitime, notamment à être payée pour ce jeu.
C'est
vraiment, vraiment, vraiment dur pour moi de demander ou d'accepter quoi que ce soit de qui que ce soit là maintenant. Mais bon, au final, je pense quand même que, d'une certaine manière, je veux quand même pouvoir être en mesure de concevoir le prochain jeu. Donc quelque part, légitimement, ça vaut la peine. Parce que je me bats avec des problèmes d'estime de soi depuis toujours.
Zoe Quinn n'est pas une star du jeu vidéo. C'est plus une référence pointue. Elle est, comme elle l'écrit, une étoile montante du jeu vidéo indépendant au moment où l'industrie du jeu et la culture geek traversent une crise d'identité. Nous sommes en 2014 et indéniablement, le jeu vidéo est en train de devenir mainstream. Tout à coup, il y a plus de diversité chez les joueurs, chez les développeurs que jamais auparavant. Et il y a notamment des filles. L'année de la sortie de Depression Quest, le jeu vidéo de Zoe Quinn, une autre jeune femme, Anita Sarkisian, fondait une chaîne YouTube, Feminist Frequency.
Bienvenue dans notre nouvelle série de vidéos qui explore les rôles et les représentations des femmes dans les jeux vidéo. Ce projet examinera les figures de style, les dispositifs narratifs et les schémas qui sont le plus souvent associés aux femmes dans les jeux vidéo à partir d'une vision globale et systémique. Cette série comprendra une analyse critique de nombreux jeux et personnages adorés. Mais souvenez-vous qu'il est à la fois possible et nécessaire d'aimer un contenu médiatique et en même temps d'être critique envers ses aspects les plus problématiques et les plus pernicieux. Alors sans plus attendre, plongeons dans le premier épisode, La Demoiselle en détresse.
La Demoiselle en détresse est un des ressorts les plus communs des jeux vidéo. Une femme, sœur, mère, amoureuse, doit être sauvée parce qu'elle a été kidnappée, emprisonnée, ensorcelée par un héros masculin.
And it's all thanks to you. Thank you, Mario. We have to do something special for you.
Zelda, Mario Bros, Double Dragon, Donkey Kong.
Here we go!
Listen, everybody. Let's bake a delicious cake. For Mario.
Une série de femmes sont en train de demander de nouvelles histoires dans les jeux vidéo. Voilà le contexte dans lequel Zoe Quinn sort Depression Quest. Le 11 août 2014, le jeu est distribué sur Steam, une célèbre plateforme de distribution de jeux en ligne. 5 jours plus tard, Zoe Quinn est à San Francisco au restaurant avec des amis quand son téléphone commence à vibrer. Quelqu'un a écrit quelque chose à propos d'elle en ligne. De minute en minute, son compte Twitter s'affole. Des insultes commencent à pleuvoir.
Someone posted a super long creepy thread about Zoe Quinn. What the fuck?
Fuck you, Zoe Quinn, you stupid cunt. Shut the fuck up. Die slow.
La jeune femme ne comprend pas. L'angoisse monte en elle. Elle se lève, marche jusqu'aux toilettes en refaisant le fil des derniers jours, des derniers mois, pour tenter de comprendre qui peut lui en vouloir. Et c'est là qu'elle comprend. 2 mois auparavant, elle a quitté un garçon appelé Aaron. Une relation toxique et abusive, dit-elle. Et en effet, la plupart des messages renvoient à un blog spécialement créé pour l'occasion, sous le nom de domaine The Zoe Post. Un interminable texte de 9000 mots, de captures d'écran de ses réseaux sociaux, de conversations privées qu'ils ont eues. Tout ça pour dire en gros que Zoe l'a trompée et qu'elle a couché avec d'autres hommes, dont Nathan Grayson, journaliste spécialisé en jeux vidéo. Et que si elle l'a fait, c'est pour avoir un article sur son nouveau jeu vidéo. C'est ce texte-là que des dizaines, des centaines, des milliers de personnes sont en train de lire, de partager sur Internet. Des hordes d'internautes qui commencent à traquer Zoé Quinn.
En un instant, ils ont plongé dans un truc du genre « trouver où elle habite, trouver où tous ces gens habitent, qu'est-ce qu'on va faire d'elle, est-ce qu'on peut hacker sa boîte mail ?» Et puis, toute une série de comptes ont été créés pour me hurler dessus sur Twitter, pour poster des détails personnels vraiment dégoûtants sur moi, pour faire des images photoshopées de moi, pour faire des commentaires sexuels dégueulasses sur moi. C'est comme si tout à coup tu ne baignais plus que dans de la haine, partout autour de toi. C'est virulent et c'est partout. D'autant plus que je souffre de troubles alimentaires, je suis tombée dans un piège, je me suis retrouvée complètement figée.
Le piège s'est refermé. Pendant des semaines, pendant des mois, Zoé Quinn reçoit des insultes en ligne, mais aussi des menaces de mort, de viol, dans la vraie vie. Son adresse est révélée, son numéro de téléphone, les coordonnées de sa famille, de ses amis. Toutes celles et ceux qui la soutiennent deviennent aussi des cibles de cyberharcèlement.
Pourquoi est-ce que tout ça est arrivé? Et comment est-ce que l'attaque initiale s'est transformée en un typhon de merde? La réponse courte est une mauvaise rupture et un article sur un jeu vidéo qui n'a jamais existé. Mais la réponse longue, c'est que c'est lié au tournant qu'a pris le paysage d'Internet.
Et c'est peut-être ça qu'il faut expliquer maintenant. Le virage tel qu'il s'est opéré à ce moment-là est tel qu'il va marquer la décennie qui suit. C'est d'abord sur des forums en ligne, Reddit, 4chan, que les hordes de harceleurs se sont formées. Mais rapidement, les messages débordent sur toutes les plateformes plus mainstream, YouTube et surtout Twitter. Les comptes qui publient se relient derrière un hashtag « Gamergate », le scandale qui touche le gaming. Le message principal de la conversation en ligne, c'est en gros « Nous sommes en colère parce que Zoé Quinn a couché avec un journaliste pour avoir un article et une critique positive sur son dernier jeu. » Et ça, c'est le symptôme d'un système pourri, de collusion entre les développeurs, les éditeurs de jeux et la presse spécialisée. Et honnêtement, à l'époque, c'est une vraie question. L'éthique de la presse gaming, c'est un véritable enjeu. Mais dans le cas de Zoé Quinn, il n'y a pas eu d'article sur son jeu Depression Quest écrit par le journaliste Nathan Grayson. Deux mois après le resto de San Francisco, Zoé Quinn réapparaît à Londres. Cheveux rouges, piercing au coin de la lèvre, elle répond à une interview de la BBC.
To me, Gamergate will always be glorified revenge porn by my angry ex.
Pour moi, le Gamergate sera toujours la glorification d'un revenge porn lancé par mon ex en colère. Avant même que ça ait un nom, ce n'était rien d'autre qu'essayer de faire que je me suicide, qu'essayer que des gens me fassent mal, traquer ma famille.
Going after my family. Gamergate will always be that to me.
C'est ce que sera toujours le Gamergate pour moi. C'est pas vrai que le Gamergate parle de l'éthique en journalisme. En dehors du fait d'accuser, comme toujours, une femme qui réussit d'être là où elle est parce qu'elle a couché avec quelqu'un.
Dès le début, Zoé Quinn pressent qu'il ne s'agit pas d'une attaque contre elle sur la question de l'éthique dans le journalisme de jeux vidéo. C'est une cabale contre elle, femme, dans l'industrie du jeu vidéo. Et ce pressentiment de Zoé Quinn, il a été mesuré. Au mois d'octobre 2014, le magazine Newsweek demande à une société spécialisée, Brandwatch, d'analyser les tweets qui contiennent le hashtag Gamergate. Il en ressort que ce sont surtout des femmes qui sont les cibles de tweets violents et presque pas les journalistes. Pourquoi ? Comment expliquer que d'une querelle sur la question de l'éthique en journalisme, on passe à une vague de cyberharcèlement à l'encontre de femmes ? Parce qu'en réalité, elle a été amplifiée par des comptes derrière lesquels on ne retrouve pas des gamers, des fans de jeux vidéo, mais des militants d'extrême droite qui viennent attiser la lutte contre les féministes. Et on va trouver là des figures, des influenceurs de l'alt-right comme Milo Yiannopoulos. Un journaliste qui va écrire des articles incendiaires sur Zoé Quinn sur le site d'extrême droite Breitbart. Des articles qui vont encore accélérer, amplifier le cyberharcèlement sur Zoé Quinn. Voilà comment tout à coup les publics se sont agrégés et comment Zoé Quinn va devenir la cible sur Internet et dans la vraie vie de mouvements néo-nazis pendant des mois et des mois.
Mais tout ça, ce n'est pas la fin de mon histoire. Tout ce que j'ai, tout ce qui est bien dans ma vie, je le dois à la capacité d'Internet à donner du pouvoir à des gens comme moi. Des gens qui, sans ça, n'auraient pas de voix. Toutes les ordures qui nous sont jetées au visage sont rendues possibles par cette machine cassée. Pourtant, je crois fermement qu'Internet est aussi le meilleur outil pour régler le problème. On peut voir Internet comme cet énorme bordel qu'il est devenu et dire qu'il est impossible à réparer. Mais faire ça, ce serait négliger les esprits brillants qui manquent à la conversation culturelle mainstream. Des gens qui se trouvent sur Internet, qui travaillent ensemble pour opérer des changements culturels positifs, en ligne et dans la vraie vie. Et c'est cette mission-là que je me suis donnée.
La première,
l'histoire continue.
Hélène Maquet, Bertrand N.
Comment cette histoire de Gamergate qui concerne une développeuse de jeux vidéo peut-elle bien résonner aujourd'hui, 10 ans plus tard? Eh bien pas qu'un peu. On en parle avec Florence Hainaut, journaliste réalisatrice du documentaire Sale pute. Bien que vous ne soyez pas dans le jeu vidéo, Florence,
je n'en développe aucun.
Cette histoire de Zoé Quinn, cela dit, elle vous est pas du tout étrangère.
Non, les mécanismes qui sont utilisés, le manque de lecture adéquate, évidemment, l'utilisation de la sexualité réelle ou présumée d'une femme pour l'attaquer. Et on retrouve les mêmes mécanismes dans beaucoup d'histoires, en tout cas d'histoires qui ont été médiatisées. Celle de Myriam Leroy, c'était en 2014 aussi. Nadia Dame, Julie Hainaut, qui est ma cousine, qui est une journaliste qui a subi des raids d'extrême droite de néo-nazis extrêmement violents. On retrouve toujours les mêmes ingrédients et surtout, et c'est ça qui est difficile et c'est pour ça qu'on a fait ce film, le manque de lecture adéquate du phénomène. Le Gamergate, à l'époque, l'information n'est même pas parvenue jusqu'à nous. C'était une espèce de sous-culture un peu exotique, ces geeks à lunettes qui s'embêtent les uns les autres, mais en fait, c'était précurseur. Enfin, cette histoire était vraiment précurseur de ce qui allait se passer pour toute une chacune, si je féminise. Il y a une étude menée par Ipsos pour le compte de féministes contre le cyberharcèlement qui est sortie il y a quelques mois. Et 84% des répondants à cette étude du volet victime étaient des femmes. Et donc, on a de plus en plus d'études qui sortent sur la ventilation homme-femme. Ben, les femmes sont surreprésentées dans les victimes et les hommes sont surreprésentés dans les auteurs.
Qu'est-ce que c'est la cyberviolence?
Alors justement, ça, il y a un petit souci, c'est qu'il n'y a pas de définition légale. Ça veut dire que chaque État, chaque institution, quand elle s'occupe de recueillir des chiffres et des données, ce qui n'est quand même pas toujours le cas, le fait avec sa petite définition. Donc il y a des études qui portent uniquement sur les insultes, il y a des études qui portent sur toute la palette d'horreurs. Alors ça va du doxing, c'est-à-dire révéler des informations privées, à aujourd'hui le deepfake, c'est-à-dire on peut très facilement et sans être développeuse de jeux vidéo ou sans avoir de grandes capacités informatiques, coller la tête d'une femme sur le corps d'une actrice porno. C'est arrivé à l'animatrice Enora Malagré qui a dit qu'elle l'avait vraiment vécu comme une agression sexuelle. Ça va du petit embêtement au quotidien au raid qui fout votre vie par terre. Ça va de rumeurs, saccager la réputation de quelqu'un, saccager la page Wikipédia. Il y a des guerres d'édition sur ma page Wikipédia où je lis parfois des choses horrible, horrible sur moi. Or, en tant que journaliste freelance, moi, mon CV, c'est ma réputation. Et aujourd'hui, si on tape mon nom dans la barre de recherche Twitter, on lit des choses. Vous ne l'avez pas fait, sinon vous ne m'auriez pas invité, je pense.
On va reprendre peut-être la genèse de cette histoire du Gamergate pour comprendre comment on en arrive à ce que vous décrivez là, donc toutes ces situations, toutes ces cyberviolences qui touchent donc majoritairement des femmes. Et il y a un phénomène intéressant qu'on a commencé à développer en racontant l'histoire de Zoé Quinn et du Gamergate, c'est le fait qu'à un moment donné, le phénomène va être récupéré puis utilisé par l'extrême droite. Alors comment est-ce qu'on passe de gamer en colère à l'extrême droite? J'ai posé la question à Cécile Simon. Elle est chercheuse à l'Institute for Strategic Dialogue à Londres. Ses recherches portent notamment sur l'extrême droite et le terrorisme, sur la désinformation, sur la violence en ligne. Et voilà ce qu'elle me dit quand je lui pose la question de savoir comment on est passé de gamer à extrême droite.
tout au début, beaucoup de figures de l'extrême droite ne s'intéressaient pas au Gamergate. Une des figures clés de l'extrême droite qui est devenue centrale au cœur du Gamergate, c'était le journaliste britannique Milo Yiannopoulos, qui, avant le Gamergate, ne s'intéressait pas du tout à la culture du gaming. Il avait même décrit les gamers comme des losers, entre guillemets. Et lorsque la campagne a commencé à devenir virale, Yiannopoulos, de manière très opportuniste, a coopté et exploité cette campagne. Il y a vu le moyen de gagner en popularité lui-même et d'exploiter les instincts misogynes des hommes dans ces communautés pour les radicaliser et plus généralement pour propager ses idées dans la sphère publique. Donc ce qui est intéressant, c'est que des acteurs politiquement et idéologiquement motivés ont vu dans le Gamergate une opportunité de créer un mouvement politique.
Ça veut dire que ce ne sont pas des gamers qui ont un profil spécifiquement de droite ou d'extrême droite. Ce ne sont pas non plus des gens qui ont été recrutés sur des forums. C'est plutôt, de manière opportuniste, il se passe quelque chose en ligne qui est réutilisé par un profil d'extrême droite qui va quoi ? Amplifier le phénomène ?
Absolument. Alors, dans le Gamergate, ce qu'on voit, c'est que le Gamergate commence sur des plateformes marginales, sur des plateformes franches, notamment 4chan, cette plateforme qui est très, très peu régulée, sur laquelle circulent des contenus extrêmement violents, extrêmement misogynes. Et cette campagne commence sur ces plateformes-là et se diffuse peu à peu sur des plateformes de réseaux sociaux beaucoup plus grandes, notamment Twitter, via le hashtag, via le mot dièse Gamergate. Et cette campagne a vraiment été orchestrée. Donc, on a vu la façon dont elle s'est transportée, entre guillemets, de ces plateformes marginales aux plateformes mainstream, c'est via des techniques de manipulation de l'opinion. Donc, notamment, ce qu'on a vu, ce sont des tactiques d'astroturfing, c'est-à-dire des personnes qui créent des faux comptes sous de fausses identités et tweetent, utilisent le hashtag pour créer un mouvement de foule, créer un mouvement de masse. Et ces tactiques-là ont été exploitées par des acteurs, justement comme Yiannopoulos, mais d'autres aussi, qui avaient un profil public et qui ont exploité cette affaire. D'abord, qui a d'abord commencé dans le milieu du gaming, pour diffuser des idées plus générales sur la diversité, sur la place des femmes dans la société, sur la société qu'ils percevaient comme étant de plus en plus politiquement correcte. Donc, on a vu, en fait, cette affaire du Gamergate, qui s'est d'abord concentrée sur une personne, on a vu cette affaire devenir un mouvement politique plus large, avec un discours plus général sur les idées progressistes, sur le rôle des femmes, la place des femmes dans la société.
Est-ce que la manière dont le Gamergate s'organise et percole et devient un mouvement qui se politise, c'est quelque chose d'inédit ? Est-ce que ça, c'est un mouvement qui est inédit à l'époque ?
Avant le Gamergate, il y avait eu déjà des campagnes de haine décentralisées qui se sont créées sur des plateformes comme 4chan. Mais ce qui est inédit avec le Gamergate, c'est d'une part l'ampleur du mouvement, qui est vraiment devenu un mouvement de masse et qui allait bien au-delà de Queen, puisqu'après elle, d'autres femmes comme Anita Sarkeesian, qui est une critique féministe et journaliste, a aussi été victime de harcèlement. Beaucoup de personnes qui ont soutenu Queen ont aussi été victimes de harcèlement, de menaces, etc., etc. Donc, c'est allé bien au-delà d'une personne. Mais c'est vraiment l'ampleur de la campagne elle-même qui est différente. Ce qui est aussi différent, c'est vraiment la banalisation d'un certain nombre de tactiques dans le Gamergate. Donc, quand je parlais des tactiques d'astroturfing, l'utilisation de faux comptes, de comptes inauthentiques pour faire monter une campagne, pour donner l'impression d'un mouvement de masse, ça, c'est quelque chose qui s'est généralisé après le Gamergate et que l'on voit de plus en plus dans des campagnes électorales, notamment lors d'élections, etc., etc.
On entend que le Gamergate a aussi servi un peu de laboratoire pour des pratiques politiques postérieures. On entend souvent que Zoé Quinn est quelque part la patiente zéro de ces vagues de cyberharcèlement et de la manière dont l'extrême droite va récupérer des histoires un peu locales, comme dans le milieu du gaming, pour les amplifier. Est-ce que ça, Florence Henault, c'est un phénomène auquel on assiste encore aujourd'hui ?
C'est exactement ce qui s'est passé lors du procès Johnny Depp-Amber Heard. On sait que l'avocat, on sait entre autres parce que ça a été dit dans un documentaire fantastique qui s'appelle La Fabrique du mensonge, qui est disponible sur France TV, que l'avocat de Johnny Depp s'est alloué les services de gros youtubeurs d'extrême droite et masculinistes qu'il a nourris avec des contenus diffamatoires, des montages qui faisaient croire qu'Amber Heard avait menti, etc. Et que ça a eu un impact sur le verdict, en fait, parce que c'est un jury populaire. Quand Johnny Depp a attaqué en 2018 le Sun, le tabloïd Le Sun qu'il avait appelé batteur de femmes pour diffamation, il a perdu son procès. La justice anglaise a pu prouver qu'il y avait au moins 12 épisodes de violence conjugale. Donc il a été reconnu auteur de violence conjugale contre Amber Heard. C'est une décision faite par un juge indépendant. Et toute la campagne autour du procès pour diffamation en 2022 n'invalide pas déjà ce verdict. Et on voit comment il y a une communauté d'intérêts de gens qui sont venus se greffer, qui ne savaient même pas qui était Amber Heard. Enfin, qui se sont servis de cette histoire parce que c'était un bon moment pour un backlash contre les femmes. C'était un bon moment pour décrédibiliser la parole des femmes qui disaient qu'elles étaient victimes et essayer de faire croire qu'elles étaient elles-mêmes autrices. Il y a une communauté d'intérêts de gens qui ne s'intéressent absolument pas à la question des violences faites aux femmes, évidemment. Mais c'était oui, une communauté d'intérêts de militants de l'ordre établi, de l'extrême droite, de personnes gercées par le narratif post-MeToo qui se sont lancées dans cette campagne. C'était d'une violence extrême. Je veux dire, les Amber Heard qui pleurent en racontant des violences conjugales, c'est devenu un mème sur Internet, c'est devenu une blague. Et moi, j'ai très mal vécu la couverture réseau social de ce procès. J'ai trouvé d'une violence inouïe.
Dont on a su après, effectivement, qu'il y avait toute une part de manipulation, oui, sur YouTube, sur TikTok aussi. Vous disiez tout à l'heure, n'importe quelle femme peut être victime de cyberviolence. On sera plus victime de cyberharcèlement si on bénéficie d'une certaine notoriété. Qu'est-ce qui peut déclencher un épisode de cyberharcèlement ou de cyberviolence?
Mais n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Ça peut être le fait d'être victime de faits divers. C'est ce qui s'est passé avec Marie Lager, qui a répondu en 2018 à du harcèlement de rue, qui a été agressée physiquement, qui a rendu publique les images de son agression et qui, après, a été off pendant un an tellement la cyberviolence contre elle a été massive. Natacha Kampusch, enfin... Trouvez-moi une victime plus victime que Natacha Kampusch.
Natacha Kampusch, c'est cette Autrichienne.
Oui, qui a été enlevée quand elle avait 8 ans, qui est restée captive pendant 10 ans, qui s'est échappée et qui depuis est victime de cyberviolence. Il y a des scientifiques, des virologues qui ont écrit une carte blanche dans The Lancet pendant la crise du Covid en disant on n'en peut plus en fait. Quand on s'exprime dans les médias à propos de notre sujet scientifique, on est victime de violences en retour. Il faut faire quelque chose, sinon les femmes scientifiques ne vont plus s'exprimer. Les journalistes... Alors, il y a encore une étude assez intéressante qui a été menée, entre autres, par l'UNESCO auprès de journalistes dans 125 pays sur la violence contre les femmes journalistes. Alors, je ne dis pas que c'est plus grave de harceler une femme journaliste, c'est juste que c'est quand même le métier qui a le plus documenté la violence contre les femmes qui y travaillent. Donc, c'est là qu'on trouve pas mal de chiffres intéressants. Bon, 73% des femmes journalistes dans le monde ont déjà été victimes de cyberviolence dans le cadre de leur travail. Mais ce qui est vraiment intéressant avec cette étude, c'est qu'elle se penche sur les déclencheurs. On a demandé à toutes ces femmes victimes en disant, tiens, après quel type de sujet, quel reportage, quelle prise de parole? Et le premier facteur, ce qui déclenche la violence en premier lieu, dans 49% des cas, c'est quand elles abordent des questions de genre, féminisme, violence intrafamiliale, droit LGBT, etc. Ça, c'est le premier facteur sur lequel on va les tabasser en ligne. Et puis après, c'est la politique. Donc, c'est pas quand elles font des reportages sur la déco ou la mode et qu'elles restent dans leur cuisine. C'est quand elles se mêlent de la cité, de la chose publique.
Le risque, c'est l'autocensure, évidemment.
C'est même plus un risque, c'est une réalité. Au fur et à mesure, ces gens deviennent nos rédacteurs en chef. Là, après avoir tourné cette émission avec vous, je vais faire une chronique féministe dans On n'est pas des pigeons et je vais justement parler de Johnny Depp. Bah, j'y vais à reculons en respirant dans un sac en papier parce qu'il y a 9 chances sur 10 qu'après, je me fasse insulter. C'est pas des conditions de travail. Je veux dire, c'est avoir peur de s'exprimer sur des sujets factuels. Hein. Je suis pas là pour. C'est pas des conditions de travail. Et on le voit. Enfin, on a reçu beaucoup de témoignages, évidemment, après avoir fait le documentaire #salepute. Là, on est beaucoup en contact, Myriam et moi, avec des étudiantes en journalisme, parce qu'il y a beaucoup de mémoires qui se font sur le sujet des cyberviolences contre les femmes journalistes. Et elles nous le disent. sait pas si on va faire ce métier, en fait. C'est quoi le salaire acceptable pour se faire insulter tout le temps?
C'est intéressant que vous disiez qu'il y a de plus en plus de mémoires qui se font sur le sujet. C'est vrai qu'il y a aussi de plus en plus de recherches, on a de plus en plus de chiffres. Ce sont des réalités qui se mesurent de plus en plus. Le Gamergate, il a eu lieu en 2014, et ça c'est un élément important, parce qu'il y a 10 ans, on estimait assez clairement que ce qui se passait en ligne, c'était un truc virtuel, qui n'avait pas lieu dans la vraie vie. C'est notamment ce que m'a expliqué Cécile Simons, chercheuse à l'Institute for Strategic Dialogue.
À l'époque, les cultures en ligne n'étaient absolument pas perçues comme une source d'impact sur le monde. Et je pense que entre le Gamergate et aujourd'hui, on commence enfin à prendre conscience du rôle que peuvent avoir certaines campagnes en ligne sur le discours public. D'autre part, le gaming en 2014 était encore une sous-culture Internet assez marginale et encore aujourd'hui dans une certaine mesure. Mais aujourd'hui, on commence à prendre conscience de l'impact des discours haineux sur les réseaux sociaux, sur des cas de violence hors ligne, par exemple. On commence à comprendre que des campagnes de manipulation de l'information peuvent influencer des élections. On commence à comprendre tout ça et le Gamergate était vraiment le début de ça. Le début de cette prise de conscience du rôle des cultures numériques sur la sphère publique, sur la démocratie, sur le discours démocratique, en fait.
Florence Hainaut, est-ce qu'en tant que société, on a pris la mesure de ce qui se passait en ligne ?
Absolument pas. Internet, c'est l'espace public le plus important dont on dispose aujourd'hui. S'il y avait encore un doute, la pandémie est passée par là. On fait tout en ligne, on drague, on travaille, on donne cours, on prend des cours, on achète nos billets d'avion, on reçoit nos résultats de tests PCR. Le résultat qu'on reçoit, il n'est pas virtuel, hein. C'est un vrai résultat de test. On fait des vraies réunions en ligne. Donc non seulement c'est l'espace public le plus important dont on dispose, et c'est surtout un espace de partage et de mobilisation pour toutes les minorités ou les publics minorisés. Et je pense que c'est aussi pour ça que les femmes, c'est un vrai terrain de chasse par rapport aux femmes, c'est-à-dire que MeToo a vraiment tendu
parce que c'est aussi un espace où Internet, un lieu où un mouvement comme MeToo peut naître et peut voir le jour.
Oui, pas d'Internet, pas de MeToo. C'est un espace de mobilisation où partager des histoires, où politiser des faits, où on politise nos stigmates. Si chaque femme qui a dit « tiens, il y a quand même un vilain monsieur qui m'a agressé, finalement on est des millions », en fait, c'est pas une somme de faits divers, c'est un fait politique, c'est un fait de société, et c'est là que se créent des mouvements, c'est là qu'apparaissent des voix, qu'émergent des sujets, même en tant que journaliste. Il y a beaucoup de sujets auxquels on n'aurait pas pensé s'il n'y avait pas eu des militants et des militantes sur les réseaux sociaux. Par exemple, la décolonisation de l'espace public, on ne se serait pas réveillé un matin en tant que journaliste blanche en se disant « tiens, c'est un sujet qui me parle ». Donc ce sont des espaces ultra importants de mobilisation où peuvent se tenir des paroles d'émancipation, où peuvent se jouer des changements. Et je pense que les personnes qui violentent sur Internet ont un projet politique. Et ce projet politique, c'est de ne pas laisser ces paroles d'émancipation s'exprimer.
La première,
l'histoire continue. Bertrand N. Hélène Maquet.
On continue de dérouler le fil qui nous ramène il y a une dizaine d'années, alors que Zoé Quinn, développeuse de jeux vidéo, était victime d'une gigantesque vague de cyberharcèlement. On est avec Florence Hainaut, journaliste et réalisatrice du documentaire hashtag salpute. Et il est temps de se poser la question de savoir ce qui peut être mis en place pour empêcher ce phénomène. Et les premières concernées à ce titre, ce sont les plateformes Twitter, Facebook, YouTube, etc. C'est ce que m'a expliqué Cécile Simons, chercheuse à l'Institute for Strategic Dialogue.
Depuis le Gamergate, les plateformes de réseaux sociaux sur lesquelles ce type de campagne se sont déroulées ont pris des mesures pour répondre au harcèlement. Donc, la plupart des grandes plateformes de réseaux sociaux ont des politiques contre le harcèlement, contre le discours de haine, misogyne ou d'autres types de discours de haine. Mais ces politiques ont été adoptées de manière trop tardive et seulement face à la pression de nombreux groupes de victimes, de nombreuses associations et acteurs engagés dans la lutte contre le harcèlement et la haine. Et ce sont dans une certaine mesure des politiques assez réactives qui cherchent à répondre à un problème qui est déjà installé. Et ce que beaucoup de chercheurs soutient les demandes, c'est le fait de mettre en place des mécanismes qui empêchent le harcèlement dans la conception même des plateformes, dans le design même des plateformes. Donc, ce qu'il faut, en fait, pour éviter que ce type de campagne se répète, c'est de mettre en place des mécanismes qui empêchent certains contenus nocifs de se répandre très rapidement. Donc, on peut, par exemple, mettre en place des mesures qui limitent la viralité de certains contenus. On peut mettre en place des fonctionnalités qui permettent aux victimes de harcèlement de se protéger, donc par exemple de contrôler ce qu'elles voient en ligne, de contrôler leur expérience davantage. Et je pense aussi que les plateformes de réseaux sociaux n'ont pas suffisamment écouté les porte-paroles, les organisations qui représentent les victimes et les groupes vulnérables au sein de la société. Et d'autre part, certaines plateformes, notamment 4chan, etc., restent des espaces non contrôlés, non régulés. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que le Gamergate s'est développé sur 4chan. Et lorsque l'affaire a éclaté, face à la pression publique, beaucoup des acteurs du Gamergate et des groupes de discussion sur cette plateforme ont été expulsés de 4chan et se sont ensuite déplacés vers une plateforme encore plus radicale qui était 8chan. Et donc, on voit en fait ces acteurs-là entrer dans des espaces de moins en moins modérés et de plus en plus extrêmes. Et ces espaces-là sont difficiles à contrôler. En revanche, les grandes plateformes de réseaux sociaux doivent faire davantage pour adopter une politique d'analyse de risque et de prévention dans la conception même de leurs produits. On voit que les plateformes de réseaux sociaux développent régulièrement de nouvelles fonctionnalités, par exemple des vidéos courtes. Et on voit que ces espaces-là, très régulièrement, beaucoup de recherches le montrent, ces espaces-là, souvent, sont des espaces de harcèlement, de diffusion de discours haineux. Et en fait, on n'apprend pas de nos erreurs. On voit que ces campagnes se sont développés sur les plateformes. Et lorsque les plateformes introduisent de nouvelles fonctionnalités, au lieu d'avoir une politique de prévention dans la conception même de ces fonctionnalités et de ces nouveaux produits, adoptent vraiment une approche réactive lorsqu'on se rend compte que ces espaces-là sont devenus des espaces de harcèlement.
Florence Henault, vous diriez-vous que les plateformes ont pris une part de responsabilité face aux cyberviolences?
Je pense que contraintes et forcées, elles ont pris quelques mesures cosmétiques, mais que le business model des plateformes, c'est la violence, parce que c'est ce qui fonctionne. C'est ce qui fait que les gens restent, les gens participent, il y a de l'engagement. Et donc, voilà, ces gens font du business. Et en l'occurrence, ils font du business sur nos stigmates. Si ce qu'on avait au fond de nous et qui faisait qu'on passait beaucoup de temps sur les plateformes, c'était uniquement les vidéos de chatons, et ben on aurait tous des vidéos de chatons dans notre feed tout le temps. Sauf que ce qui fonctionne, ce qui fait que les gens restent, c'est la haine. Et on sait que les algorithmes des plateformes sont manipulés pour que les contenus les plus clivants soient poussés et arrivent en premier. Et elles participent totalement à la cyberviolence parce que économiquement, elles n'ont aucun intérêt. Donc elles le feront peut-être, contraintes et forcées, si l'Europe un jour arrive à faire passer quelque chose, arrive à les contraindre, mais elles ne prendront certainement pas ces mesures toutes seules.
Alors on a expliqué ce qu'étaient les cyberviolences, on a tenté un peu d'en faire une forme de cartographie, on a expliqué que Internet c'était la vraie vie, donc s'il se passe des choses illégales sur Internet, ces choses-là sont illégales dans la vraie vie. Est-ce qu'aujourd'hui, porter plainte, ça fonctionne en Belgique?
Non, pas vraiment. Pas vraiment pour différentes raisons. D'abord, il n'y a pas de volonté politique de pousser le sujet. À un moment, il y a eu une recrudescence des vols de voitures. Il y a une volonté politique. On a formé, on a mis les moyens. Il y avait des brigades. On a formé les policiers. Là, il n'y a pas de décision politique. Ça veut dire qu'aller porter plainte, il peut arriver que dans un commissariat, vous deviez expliquer. Et donc quoi, vous avez reçu un POC? Non, j'ai pas reçu un POC, j'ai reçu une menace de viol. Enfin, c'est très compliqué. Ils sont pas formés à ça. Et c'est pas que je blâme les policiers, c'est que voilà, il y a pas de décision politique pour à un moment ils ont mis l'accent sur les violences intrafamiliales. Et ben les policiers ont été formés à recevoir cette parole. Là, il y a même pas dans le menu déroulant un label pour dire exactement pourquoi.
Il y a plainte pour cyberviolence, il y a pas.
Porter plainte, c'est dans l'immense majorité des cas classé sans suite par le parquet. Alors, il y a On peut porter plainte pour différentes choses. On peut porter plainte pour calomnie et diffamation au civil. Si on veut porter plainte pour harcèlement, cyberharcèlement, on a un tout petit souci en Belgique. C'est qu'en 1830, le Constituant s'est dit qu'il fallait protéger la presse, excellente idée au demeurant. Et donc l'article 150 de la Constitution définit ce qu'est un délit de presse. Mais à l'époque, ils ont dû définir ce qu'était la presse. Et c'était quoi la presse? C'était des messieurs avec des monocles qui écrivaient des gazettes et collaient des affiches politiques. Et donc ils ont dit, bah, la presse, c'est ce qui est écrit et public. Aujourd'hui, on se retrouve face à des gens qui font des choses, qui commettent des délits de manière écrite et publique. Par exemple, les messages sur Twitter, les messages sur Facebook, et ils sont protégés comme des journalistes, sauf dans le cas d'écrits racistes ou antisémites.
La difficulté, c'est que quand on commet un délit de presse, on ne passe pas devant un tribunal correctionnel où ça va un peu plus vite, on passe en cour d'assises. Et c'est ça le fond du problème.
Ah oui, c'est qu'on ne réunit pas une cour d'assises pour un délit de presse. Enfin, ça s'est passé il y a l'année dernière. Ils en ont chopé un qui écrivait des horreurs sur les femmes. Il fallait écraser les femmes, je ne sais pas quoi. Et il est passé en cour d'assises. Mais c'était plus pour montrer l'absurdité du système. Parce qu'on ne peut pas traîner ces gens en cour d'assises, évidemment. Donc aujourd'hui, soit vous êtes cyberharcelé et vous recevez des messages privés. Alors là, comme ce n'est pas écrit public, vous avez peut-être une chance. Mais si vous l'êtes de manière publique, bah voilà, vous ne pouvez rien faire. Donc en fait, si on peut aller au civil, ce qui est délicat au civil, c'est que il s'agit, si on veut porter plainte pour harcèlement au civil, il faut prouver le dommage. Et la dernière personne à qui vous avez envie de donner des rapports de votre psychiatre sur votre état psychologique, c'est la personne qui vous harcèle. Mais ça va m'arriver dans un cas. Je veux faire condamner ce type pour harcèlement. Je vais devoir remettre des rapports sur des choses, ce que j'ai de plus douloureux et de plus intime. Et voilà, je vais le faire parce qu'à un moment il faut le faire, mais c'est très pénible, c'est cher, un procès, c'est cher, c'est pénible, c'est humiliant, ils s'en servent contre nous, c'est une démarche. Moi, j'arrive pas à dire aux victimes, allez-y, portez plainte, faites des procès, parce que c'est compliqué, en fait. C'est compliqué, le problème, il doit se jouer avant.
Alors ça, c'est la situation en Belgique, et on va peut-être terminer avec ça. Est-ce qu'il y a des exemples ailleurs dans le monde de législations qui fonctionnent et qui permettent de lutter contre les cyberviolences et contre le cyberharcèlement?
Ben, on arrive toujours trop tard quand il s'agit de changer la loi. La France est en train de bouger de manière vraiment pas inintéressante, mais parce qu'il n'y a pas le délit de presse qui les bloque comme nous. Mais je pense que le plus gros problème, c'est pas comment on répare les pots cassés, c'est pourquoi aujourd'hui, les harceleurs, les mecs qui agressent et qui violentent, mettent les rieurs de leur côté. Et pourquoi c'est socialement encore totalement acceptable de violenter via les réseaux sociaux?
Merci Florence Hénault d'avoir été avec nous pour refaire donc cette histoire de Zoé Quinn et du Gamergate. Et puis dans les 10 années qui suivent, comment cette pratique a évolué aux États-Unis, mais aussi, vous nous le disiez, en Belgique. Merci d'avoir été avec nous. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce que nous faisons chaque semaine dans l'Histoire continue avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy.